Jésus est le bon berger. Alors c'est vrai, comme ça a été dit, on est le premier dimanche de l'Avent. C'est aussi la période qui correspond à Noël, au début de l'année liturgique. Et on va cheminer comme ça, ces prochains dimanches, vers Noël, vers la fête qui célèbre la naissance de Jésus. Alors, comme elle nous l'a lu, le texte, il y a un peu plus de 2000 ans, en Galilée, il y avait une jeune fille. Elle était enceinte de 8 mois. Ça se voit quand même, hein, à 8 mois, on a quand même un joli ventre déjà. Elle s'appelait Marie. Vous la connaissez? Et puis elle attendait certainement avec impatience ce bébé, ce nouveau-né, son premier. Puis Joseph, son fiancé, il avait sûrement fabriqué un très beau berceau en bois. Tout était prêt pour accueillir le bébé. Mais il y a justement un changement. Il y a un décret comme ça qui arrive de César Auguste qui exige un recensement. Alors ça vient chambouler tous leurs projets. Ça, c'était pas prévu. Et maintenant, ils devaient se rendre dans un village à plus de 100 km de Nazareth. Quand même, c'est pas le bon moment, quand on a plus de 8 mois de grossesse, de faire à pied ou à dos d'âne encore 100 km. Puis l'enfant, il pouvait arriver d'un jour à l'autre. Mais c'était écrit dans le livre du prophète Michée que le Messie, le Sauveur, allait naître à Bethléem. Alors n'en doutons pas, les promesses de Dieu vont s'accomplir. En chemin, Marie et Joseph y croisent des amis, des membres de leur famille. Et les jours passent. Et puis plus les jours passent, plus ils se retrouvent un peu seuls. Ils marchent lentement, hein. C'est sûr, à 8 mois de grossesse, on va moins vite. Et puis ils voient aussi des bergers avec leurs troupeaux. Alors voilà, pour Noël, on va s'arrêter là, puis les prochains... Dimanche, je pense qu'on arrivera gentiment à Noël. Aujourd'hui, moi, je vous propose qu'on ne s'arrête pas encore sur Jésus, le nouveau-né, mais plutôt sur Jésus, notre berger. Alors, il est notre sauveur, notre maître, mais il se présente aussi à nous comme le bon berger. « Je suis le bon berger », a dit Jésus. « Je donne ma vie pour mes brebis ». Pour nous, aujourd'hui, c'est vrai que cette image d'un bon berger, ça nous parle quand même beaucoup moins. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je sors dehors dans les champs promenés, je ne vois pas beaucoup de bergers. Je n'ai pas un oncle, un neveu ou quelqu'un dans ma famille qui est berger. Alors, c'est vrai qu'on a un peu de peine, on doit faire un effort quand même pour essayer de se rendre compte de ce que c'est que la vie d'un berger. Alors, relisons le psaume 23. L'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Là, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, comme on l'a chanté, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je retournerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce psaume, il a été rédigé par David. David, il était lui-même berger, ado, adolescent. Il était aussi dans les champs. Il s'occupait de ses brebis, les brebis de son père. Et puis, avant de devenir roi, et même avant de combattre Goliath, il nous est dit justement qu'il témoigne au roi Saül qu'il a dû justement protéger ses brebis. Il s'est battu contre un ours et contre un lion qui voulait s'emparer d'une brebis. Alors David, lui, savait compter sur l'aide de Dieu. Quand David parle de son Seigneur comme d'un berger, il a donc une idée assez précise et puis du rôle et de l'importance du berger. Il sait qu'un berger prend soin de ses brebis, qu'il les aime, Ils cherchent pour elles justement de bons pâturages bien verts avec de l'herbe grasse, de l'herbe en abondance, une source d'eau. Parce qu'en fait, c'est seulement quand elles ont bien mangé et qu'elles sont tranquilles que les brebis, en fait, elles peuvent se reposer. Sinon, elles n'arrivent pas à se reposer, elles restent debout. Et puis, le bon berger, il veille sur ses brebis. Il y veille tellement qu'il veille souvent jour et nuit et il les protège de différents dangers. Alors, c'est vrai que les brebis, après, on peut faire des parallèles pour nous, les dangers des brebis, ça peut être les prédateurs, des loups, des renards. Ça peut être des parasites, des insectes qui les affolent, comme par exemple sur ces images. Mais ça peut être aussi en fait des tensions qu'il y a au sein du troupeau. Parce que rapidement, si le berger il s'éloigne ou il n'est pas là, il y en a des dominants qui commencent à pousser les autres, qui leur disent « c'est ma place, c'est mon herbe, même s'il y a assez de place ». Alors peut-être des fois aussi au sein de l'église, malheureusement, il y a aussi parfois un peu des tensions. Mais voilà, quand le berger revient, étonnamment, on voit que ça change tout. Les brebis, elles sont plus centrées sur entre elles, mais elles jouent plus à saute-mouton. Parce que là, on pense que peut-être elle a réussi à sauter par-dessus, mais si elle se loupe, quand même, ça doit faire mal. Et l'autre grand, grand danger d'une brebis, c'est qu'en fait, elle peut se retourner sur le dos. Parfois, elle s'agenouille dans un creux et tout d'un coup, elle n'arrive plus à se relever, soit parce qu'elle est trop grasse, soit parce qu'il y a trop de laine. Et là, c'est la catastrophe. Une brebis, elle ne peut pas se relever seule. Donc, si le berger ne vient pas rapidement, le pire, c'est que s'il fait chaud, qu'il y ait un temps sec, elle peut aussi en mourir. Alors, sans le berger, le troupeau est très vulnérable. Ça, c'est un autre prédateur. Chaque mouton, finalement, est sans défense devant les diverses menaces. Alors, face à ces quatre sortes de dangers, c'est uniquement la présence, justement, du berger qui peut les protéger, qui peut les rassurer, qui peut les soigner et qui peut les relever. La relation, justement, entre ce berger et ses brebis, elle est vitale, elle est importante. Alors, de même, nous aussi, finalement, on peut compter sur Jésus, notre bon berger. Lui aussi, de la même manière, il est là aussi pour nous protéger. Il est là aussi pour nous soigner. Il est là aussi pour nous rassurer. Et il est aussi là pour nous relever quand on a chuté. Alors, on peut lire ce psaume justement en pensant aux brebis, mais on peut aussi lire ce psaume en pensant à nous, les brebis de Dieu, les brebis du berger. Un peu d'avance. Le berger, c'est vrai, c'est lui qui guide le troupeau vers des nouveaux pâturages. Il les dirige, il leur indique le chemin. Il va les chercher lorsqu'elles se perdent. Alors celle-ci, c'est sûr que, vu la toison qu'elle a, on peut imaginer qu'elle n'arrive pas à voir son chemin. Et puis, il les porte aussi. Jésus, c'est aussi celui qui nous porte quand on est affaibli. Auprès du bon berger, on se sent en sécurité. Les brebis connaissent sa voix, et le berger connaît la voix de ses brebis. D'ailleurs, il les compte régulièrement pour être sûr qu'il n'y en a pas une qui s'est perdue. Et il y a une relation très forte qui lie le berger à ses brebis. Alors, dans ce psaume, c'est vrai que David, lui, confesse sa confiance en Dieu. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Je me suis dit, on pourrait presque s'arrêter là. Parce que si on sait qui est l'Éternel, on réalise que c'est un bon berger. Il déclare qu'il prend soin de lui, qu'il ne manque de rien, qui le nourrit, qui le conduit, qui le protège, qu'il est à ses côtés. Et Dieu, il va même agir encore plus au fond. Il ne va pas juste nous donner la nourriture, que ce soit de la nourriture qu'on mange ou la nourriture de la parole, mais il va venir aussi toucher notre âme. Parce qu'au verset 3, David il dit « Le Seigneur restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et si on revient au texte hébreu, littéralement, ça serait un peu quelque chose comme « mon âme retourne » ou « se retourne vers Dieu ». On pourrait dire « elle-ci, elle se repent » et elle est conduite sur ce chemin, sur un chemin de justice à cause de son nom ou pour la gloire de Dieu. Donc il y a quelque chose qui se passe en nous, que Dieu agit. David y témoigne que son âme, son souffle de vie, est comme attiré par Dieu, par son esprit. C'est Dieu qui le conduit sur ce chemin de justice. Il y a comme un mouvement intérieur. Ce matin, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a chanté plusieurs fois ce souffle qui est là, ce vent, cet ouragan, que notre âme aussi, elle est visitée par Dieu. Et lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger », alors c'est aussi une image finalement très forte et parlante pour le peuple d'Israël. Et Jésus reprend cette image parce qu'avant elle était attribuée à l'Éternel. En utilisant consciemment cette image, il se présente comme Dieu dans Jean 10. Il fait référence à une image que ses auditeurs, les disciples, les gens qui l'écoutent à ce moment-là connaissent bien pour l'appliquer à lui-même. Alors, ce n'est pas rien. C'est même le cœur du message dans l'évangile de Jean. Et c'est toujours notre défi, finalement, aujourd'hui, au niveau de la société qui ne sait plus qui est Jésus, ou qui ne veut même pas savoir qui il est parfois, de pouvoir aussi le présenter. En s'attribuant ses caractéristiques, il pose un acte fort. Oui, Jésus est venu prendre soin de nous. Et il a aussi donné sa vie pour nous. C'est vrai qu'il est prêt à tout pour ses brebis. Il en prend soin, mais il les aime tellement. Et il nous dit aussi qu'elles lui appartiennent. On lui appartient. Il en est le responsable. Il va même justement à nous visiter, à toucher notre âme, à nous rencontrer. Et puis le psaume, il continue. Il continue, et puis là, il y a un moment plus difficile. La brebis, elle entre avec son berger dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors ça, c'est plutôt juste avant le troupeau paisible. Il prend soin de chacun, qu'on soit différent, pour différentes raisons. Et puis, il y a des temps dans la vie où justement, on sent qu'on n'est pas très bien, que parfois, je ne sais pas si vous avez vécu, mais on est tellement dans les ténèbres qu'on ne voit même plus le berger. C'est un peu comme quand il y a le brouillard tellement dense. Les ténèbres, elles sont autour de nous, parfois elles sont aussi en nous. Et puis la mort, parfois elle guette, on peut avoir des pensées de mort. C'est vraiment assez effrayant. Et pourtant, David, lui, il dit, il proclame, il ne craint aucun mal. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qui lui donne une telle assurance ? C'est la présence du Seigneur. Sa présence le rassure. Alors, j'aurais bien voulu un mix de cette image avec celle-ci, où quelque part, tout autour, c'est sombre, et puis finalement, Jésus, il est un peu sous le brouillard avec nous. Et lui, il est là, à nos côtés, même si on vit des choses difficiles. Que ce soit la maladie, que ce soit des pertes, que ce soit des soucis financiers, nous, on aurait vite tendance à nous replier sur nous-mêmes, à ne pas oser montrer qu'on est dans cette vallée, qu'on ne va pas bien. Et puis, malheureusement, facilement, moi, ça m'arrive aussi, quand on va mal, on oublie aussi que Dieu, il est quand même toujours là, à nos côtés. Puis dernièrement, il y a un peu plus de 10 jours, il y a une personne de l'église qui m'a envoyé une petite vidéo d'un pasteur qui faisait un voyage, il était en avion. Et dans l'avion, à un moment donné, le personnel dit qu'il y a de grandes et de très fortes turbulences qui arrivent. Chacun est pris de retourner à sa place, d'attacher sa ceinture, et là, ça avait l'air vraiment, vraiment grave. Et lui, il a commencé à paniquer, à avoir le cœur qui battait la chamade, et tout d'un coup, il pense à sa famille, il pense à ses enfants, il se dit « mince ». Alors, il serre au maximum, il ne pouvait presque plus respirer, puis il attend. Il attend qu'il traverse les turbulences. Et puis, tout d'un coup, il y a Dieu qui l'interpelle. Puis qui lui dit, mais regarde le steward, il est assis là, tranquille. Puis, alors que toi, là, tu t'inquiètes. Puis, il dit, mais pourquoi toi, tu t'inquiètes? Puis, il dit, mais la réponse, elle est simple. Ce steward, lui, il est formé, puis il connaît son appareil, il connaît l'avion. Il fait confiance. Et puis, Dieu, là, il l'interpelle, il lui dit, mais toi, tu connais pas l'appareil. Tu connais pas l'avion. Mais tu me connais, moi. Et là, il est confondu. Témoigne que tout d'un coup, il y a la paix de Dieu qui revient. Et puis qu'il fait une prière et il dit, mais Seigneur, je te prie, protège mon voyage. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, sois avec moi. Et je bénis ce voyage. Et puis finalement, en fait, il n'y a eu aucune turbulence. Alors voilà, les stewards, ils ont dit, ah, peut-être que le pilote, il a réussi à trouver un autre chemin. Puis lui, il dit, mais merci Seigneur, parce que je crois que toi, tu as agi. Puis lui conclut aussi en disant, mais quelles que soient les tempêtes qu'on va traverser dans nos vies, n'oublie jamais qui est ton berger. La suite du psaume 23, comme je l'ai lu avant, c'est assez étonnant parce qu'après les verts pâturages, la sombre vallée, on est encore un peu dans la nature. Là, tout d'un coup, on arrive dans un nouveau décor. Il y a une table qui est posée. Ça pourrait être justement dans le temple, dans la maison de Dieu. Et là, Dieu place une table. Il nous invite à sa table. La table représente la communion avec Dieu, le lieu de l'alliance renouvelée. Et le bon berger, il nous invite. Ce qui peut surprendre, c'est que cette table, en tout cas moi, ça m'a posé des questions, elle est dressée en face de nos ennemis, ou en anglais, ils disent en présence de nos ennemis. Alors généralement, je ne sais pas vous, mais ce n'est pas forcément les gens qu'on aime voir quand on est assis à table avec Jésus. Mais alors qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Car franchement, une table, ce n'est pas non plus quelque chose qui nous protège de nos ennemis, on ne va pas se cacher derrière. Alors en écoutant la prédication, j'avais déjà un peu en tête mon message dimanche passé, mais quand j'écoutais David, je me suis dit, mais j'ai l'impression que là, il y a une clé. Ça m'a donné un éclairage nouveau. Je me suis dit, mais Dieu nous appelle à aimer nos ennemis, à les bénir et à leur faire du bien. Puis j'aimerais relire le texte de Matthieu 5, 43 à 45, qu'on a lu la semaine passée. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et si Dieu invitait à sa table nos ennemis, quelle serait notre réaction ? Si Dieu les accueille, pouvons-nous nous aussi l'accueillir, les accueillir aussi à la table du pardon, à la table de la grâce et de l'amour? Puis, David témoigne que le bon berger oint d'huile sa tête et sa coupe déborde. Alors quand on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de l'amour de Dieu, on peut imaginer qu'à ce moment-là, David, quand il est oint, quand il reçoit cette onction, il y a aussi l'amour de Dieu qui vient dans son cœur. Et Romains 5, 5 nous dit « L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et pour accueillir son ennemi à la table, on a aussi besoin d'être comme visité par Dieu, par son Esprit, pour recevoir une nouvelle dose d'amour. Alors ce psaume 23, il se termine ensuite par des paroles de bénédiction et un engagement à retourner, comme on l'a chanté, à la maison de Dieu. Au début, c'est notre âme qui était attirée comme ça vers Dieu. Et à la fin du psaume, en fait, c'est notre être entier. On se dit, mais on a envie, on veut, on désire retourner dans la maison de Dieu parce qu'on a goûté ses bienfaits. On a goûté à sa présence, à l'effusion de son esprit. Alors ça nous donne, c'est vrai, envie de retourner chaque jour vers lui. Je me suis dit, mais finalement, c'est la présence du Seigneur qui est au cœur de ce psaume. Ce psaume, c'est comme un résumé, un condensé de notre vie de foi. Puis ça m'a fait penser au livre, pour ceux qui ont aussi qui l'ont lu, de Le Voyage du Pèlerin, de John Bunyan. En méditant ce psaume, il me semble que David nous dit « La présence du Seigneur est au centre de ma vie. » Alors, nous aussi, puissions-nous aussi suivre notre bon berger et dire « Le Seigneur est mon berger, sa présence est au cœur de ma vie. » J'aimerais prier. Seigneur, merci. C'est vrai, on se rappelle que toi, tu es né, tu es venu parmi nous. Et tu es venu aussi parmi nous comme le bon berger. Tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu connais nos vies, nos situations, tu connais notre avenir. Et je te loue et je te remercie parce que dans ce psaume, on voit aussi tout ce que toi, tu fais pour nous. Combien tu prends soin de nous. Et tu n'es pas là pendant 5 ou 10 ans. Tu es là tous les jours de notre vie. Et tu nous promets aussi d'être avec nous dans l'éternité. Seigneur, personne dans notre vie peut être là chaque jour à nos côtés. Toi seul. Et je te loue et je te remercie de ce que tu es mon bon berger, de ce que tu es notre bon berger. Seigneur, je te prie aussi que tu me donnes d'être un bon berger ou une bonne bergère aussi pour cette communauté, avec mes collègues, Apprends-nous, Seigneur, à prendre soin de chacun. En ton nom, Jésus. Amen.